Non, mais je suis ravi qu'il y ait plus de philosophes que de juristes, paradoxalement, bien que je sois juriste, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la récidive, c'est ce qu'il y a de plus simple à concevoir et de plus dur à appliquer, de plus compliqué à appliquer. L'absence de juriste le montrerait presque. D'abord, la récidive, c'est un concept pénal. Deuxièmement, c'est un concept que tous les pénalistes ne rencontrent pas. Et quand on le rencontre, son traitement se fait d'une manière très technique. Alors, pourquoi la récidive est un thème intéressant en dehors de sa dimension psychanalytique et en dehors de sa dimension philosophique qui sera la plus intéressante et la plus enrichissante? C'est parce que normalement, le droit pénal devrait disparaître par sa réussite. Eh oui. Nous, on devrait œuvrer par la disparition du droit pénal et ce serait notre réussite. Si le droit pénal arrive à dissuader ceux qui n'ont pas commis d'infraction de le faire, et s'il arrivait à éviter la récidive, après tout, normalement, ma grand-mère me disait une fois c'est une bêtise, une deuxième fois c'est un peu plus grave, le droit pénal disparaîtrait. Et pourtant, malheureusement, on est loin de voir la disparition du droit pénal, notamment à cause de la récidive. Ne parlons pas de la pénalisation, de l'inflation pénale et de l'engorgement pénal. Alors c'est quoi la récidive? C'est très simple, c'est le fait de répéter la commission d'une infraction. Alors en droit pénal, il y a un principe non bis in idem et il y a une autre maxime bis repetita. Non bis in idem, le droit pénal ne punit pas la personne deux fois pour les mêmes faits, mais il peut la punir deux fois pour des faits répétés. Donc la récidive, c'est une définition qu'on trouve un peu partout. C'est un concept qui révèle l'échec d'une première condamnation définitive du fait de la commission, dans certaines conditions, d'une nouvelle infraction. On a tout dit à propos de la récidive et je salue la présence de Bâtonnier Jantet qui est récidiviste pour ces réunions ici. Et en la matière, il n'y a pas de délai ni entre le premier terme ni entre le deuxième terme. C'est loin d'être un crime. Bienvenue à Eric Jantet. Donc voilà la définition qui est très simple, c'est le fait de commettre une deuxième infraction dans des conditions déterminées par la loi. Pourquoi dans des conditions déterminées par la loi? Parce qu'il peut y avoir des modalités extrêmement variables. Il peut y avoir des modalités extrêmement variables, et d'ailleurs, je vous ai donné dans les documents, pour éviter la lecture de textes, une lecture fastidieuse, on distingue la récidive comme étant une circonstance aggravante générale, c'est-à-dire que quand elle est constituée, elle aggrave la répression de l'infraction poursuivie, en augmentant bien évidemment la peine encourue. Donc l'équation est très simple. Une première infraction déclenche une sanction, la répétition de cette infraction ou la répétition d'un comportement infractionnel voulu par la loi aggrave la peine de cette deuxième commission. Donc on peut dire que la récidive est un facteur aggravant. Alors il y a pas mal de variantes. La récidive peut être générale. Générale, ça veut dire que dans ce cas, on n'exige pas que le comportement illégal qui est jugé soit de même nature que celui qu'il a déjà été. On assimile toutes les infractions entre elles. C'est ce qu'il y a de plus grave. Mais en général, il y a un peu de compartimentage ou une sorte de concertation entre la première, de concordance entre la première et la deuxième infraction. La récidive peut être perpétuelle. Perpétuelle, ça veut dire que quelle que soit la date à laquelle la deuxième infraction est commise, on peut la prendre en considération. Cela aussi est un système très sévère. La récidive, en général, elle est temporaire et spéciale, ça veut dire qu'il faut avoir commis la deuxième infraction dans un certain laps de temps. On parlerait de rémission. Et il faut que la deuxième infraction soit d'une certaine gravité. On pourrait donner plein d'exemples de ce côté-là. J'ai voulu quand même, pour les auditeurs non juristes, trouver quelques références. Il y a un avocat qui s'appelle Maître Eolas. Il a un blog qui est très connu. Vous mettez Maître Eolas sur Internet, Google, et vous allez lire. Il fait 2-3 pages sur les différents thèmes. Et ce sont vraiment des thèmes, pas de vulgarisation, mais rendre les idées juridiques un peu accessibles. Alors, il faut éviter, sur le plan technique, de confondre la récidive avec deux hypothèses techniques, et c'est intéressant de les dissocier. Il y a ce qu'on appelle le concours réel d'infraction. Le concours réel d'infraction, c'est le fait de juger une personne qui a commis deux infractions successives, distinctes l'une de l'autre, sans qu'elles soient séparées par un jugement. on commet une escroquerie et un vol, on est arrêté à l'issue de la deuxième infraction, on peut en commettre trois ou quatre, et on est jugé par la globalité des infractions distinctes, indépendamment de leur nature, indépendamment de leur date de commission, on est jugé globalement par une arrestation unique. C'est le concours réel d'infraction. Il y a une idée mnémotechnique, il y a réellement plusieurs infractions qui ont été commises. Alors, en droit américain, il y a le cumul des peines. Dans les Dalton, on entend parler que le Dalton a été condamné à 457 ans d'emprisonnement et cette fois la peine de mort. Ça fait sourire, mais le cumul des peines n'existe pas en droit français, sauf en matière de contravention. Il n'y a qu'une seule peine, c'est la peine de l'infraction la plus grave. Plusieurs poursuites, une seule condamnation. Plusieurs infractions, une seule condamnation. C'est le principe de non-cumul des peines, à ne pas confondre avec la récidive. À côté du concours réel d'infraction, il y a ce qu'on appelle la réitération d'infraction. La réitération d'infraction, c'est un terme qui a été consacré par une loi du 12 décembre 2005. C'est lorsqu'il y a une répétition d'infraction après des jugements qui ont été prononcés, sans que les règles, les conditions de la récidive soient réunies. On a l'habitude, les pénalistes, on dit, voilà, telle personne qui se présente, elle a un casier judiciaire long comme un bras. Ce n'est pas nécessairement de la récidive. C'est une réitération, une addition, une multiplication, une réitération. Le terme, sémantiquement, veut dire ce qu'il veut dire. Alors, il y a pas mal d'idées qui tournent autour de la récidive, et vous en entendez parler dans les journaux, à chaque fois qu'il y a un événement, notamment sur le plan sexuel, et là, je crois qu'on va en parler, hein. On vous parle de récidive, comment faire pour éviter la récidive. Alors, il y a une loi du 12 décembre 2005, loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Il y a une loi du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance qui traite de la récidive. La loi du 10 août 2007, renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Et on pourrait consacrer une séance entière à la responsabilité des mineurs, au seuil de responsabilité, à la récidive, à la réitération. Tout à l'heure, je rentrais d'une expertise, j'écoutais France Culture, il y avait une émission sur ce qui se passe dans certaines cités, le trafic de drogue, l'institutionnalisation de ce trafic, la comptabilisation de ce trafic, la professionnalisation de ce trafic, comme si c'était un événement tout à fait normal. C'est la lutte des mineurs, et ce sont tous des mineurs. La loi du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté, à la déclaration d'irresponsabilité pénale. On ne va pas dire deux mots à propos de la rétention de sûreté. La loi du 10 mars 2010, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle. Mais oui, le risque de récidive criminelle. La loi du 13 mars 2011, elle est toute récente, quasi un cadeau de Noël, hein, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. Et je crois avoir oublié une loi, encore plus récente, je me demande si elle n'est pas du 21 décembre, je crois. Il y en a une récente, en tout cas. Et puis, quand vous partez sur récidive, vous allez retrouver des interrogations ou des interviews de M. Mercier. On réfléchit actuellement à la réforme de la récidive parce que le problème n'est pas réglé. Le 26 novembre, il donnait une conférence de presse pour dire on est en train de travailler sur la récidive. Alors, ça veut dire que c'est un phénomène extrêmement délicat. Alors, comment peut-on faire? Là, c'est très simple. On va aggraver les peines. Dans quelles conditions? Alors, je vous ai donné la liste des dispositions du code pénal, suivant les circonstances dans lesquelles on se trouve. Alors, il faut savoir que l'élément le plus intéressant, c'est ce qu'on a dit, et Mme Dati le dit souvent quand elle est interviewée, j'ai fait la réforme de la carte judiciaire et j'ai introduit les peines planchées. Les peines planchées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certaines circonstances, notamment de récidive, on voudrait imposer au juge un minimum de peine en deçà duquel il ne devrait pas pouvoir descendre. C'est ça la peine planchée. Alors évidemment, le terme est excessif parce que dans le temps, on disait le choix entre l'arbitraire pré-révolutionnaire et la démocratie judiciaire post-révolutionnaire, c'était de ne pas faire du juge un distributeur automatique de peine. La formule était consacrée. Le juge, pour telle infraction, automatiquement, il y a une peine qui tombe. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on a introduit la personnalisation de la peine. Il faut prendre en considération la situation de l'intéressé, son passé, ses conditions de vie, ce qui lui arrive, peut-être philosopher sur son cas, sur sa situation psychologique. Et cette personnalisation de la peine va à l'encontre de l'automatisation de la peine et donc de la notion de peine plancher. Et pourtant, il faudra bien que, très souvent, c'est ce qu'on appelle la récidive légale. Quand on entend, il suffit d'aller à une audience pénale, on dit « Monsieur, vous êtes un multirécidiviste ». Et le procureur demande des peines qui sont parfois au-delà de ce qu'on pourrait penser. Alors cela étant, la peine plancher ne s'applique pas automatiquement. C'est une peine plancher, mais ce n'est pas une peine automatique, suivant les circonstances. Suivant les circonstances. Le juge peut motiver le fait de descendre en deçà, il faut des circonstances exceptionnelles. Et dans certaines hypothèses, le rôle de psychiatre peut être intéressant sur une analyse médicale de la situation de l'intéressé. Pour ce qui concerne les peines de récidive, une fois qu'on a condamné une personne, est-ce qu'elle peut sortir dans des conditions précises ou pas? Alors il faut savoir que on a introduit deux notions, la rétention de sûreté et l'injonction de soins. Qu'est-ce que la rétention de sûreté? Eh bien, la rétention de sûreté, c'est une peine sur la peine. Il faut qu'elle soit prévue par la décision criminelle, parce qu'évidemment, il y a un minimum d'années de condamnation. Il faut que l'arrêt d'assises qui prononce une peine qui doit supérieure être de 15 ans minimum prévoit cette rétention de sûreté, qui signifie tout simplement qu'à l'expiration de la peine initiale, on peut prolonger la condamnation pour des raisons de sûreté afin d'éviter la récidive. C'est une sorte de rallongement de la peine à l'issue de la peine principale prononcée à raison des circonstances et de risques de récidive. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à saisir le problème de la récidive d'une façon autre que répressive en l'état actuel des choses. Et puis on peut introduire aussi l'injonction de soins, c'est-à-dire que à l'issue de la peine, encore une fois, à l'issue de la peine, si on voulait utiliser une terminologie parfois un peu facile, on pourrait parler de double peine. La peine principale et une peine secondaire qui viendrait se greffer à l'issue et à l'expiration de la première. On peut, sur un examen médical et sur avis d'une commission médicale, notamment psychiatrie, ordonner une injonction de soins alors que la personne a acquitté sa dette à l'égard de la société selon la formule consacrée. Pourquoi? Parce que le problème de la récidive pose un problème majeur. Il pose un problème majeur, et c'est pour cela que les peines planchers ne s'appliquent pas automatiquement. Est-ce qu'elles sont dissuasives ou pas? Est-ce qu'elles sont médicalement acceptables ou pas? Socialement, philosophiquement, je n'en sais rien. Mais sachez que Mme Dati, elle n'a pas fait l'unanimité, loin de là, en tant que ministre de la Justice, en tout cas auprès des magistrats, auprès des avocats. Il se trouve que la justice fonctionne avec les avocats et les magistrats. Elle était très appréciée par les notaires, mais les notaires ne participent pas à la justice, à vrai dire. Le bâtonnier Janté en a souffert et j'ai pris sa succession avec l'arrivée de Mme Dati. Enfin, elle a construit de nouvelles prisons, notamment Saint-Joseph, Saint-Paul, Saint-Joseph disparaissent. C'est destiné à devenir des hôtels, paraît-il, de luxe, mais il y a Corba. Ah, pardonnez-moi. C'est vrai qu'initialement, il y avait un projet, c'est comme ça, oui, c'est vrai. Heureusement. Eh bien, nous sommes actuellement, et je vais vous donner le nombre exact, au 1er janvier 2011, il y avait 60 544 détenus pour 56 358 places disponibles. 60 544 détenus pour 56 358 places disponibles. Avec, semble-t-il, 30% des peines inférieures à un an qui ne sont pas exécutées. Le parquet ne cherche pas à les exécuter, il n'y a pas de place. Et avec une promesse qui avait été faite et qui a été reléguée, c'est ce qu'on appelle l'encellulement individuel, c'est-à-dire la possibilité pour chacun d'être seul dans sa cellule. On est à 4 maintenant, alors qu'on était à 7 ou 8 à Saint-Paul. Donc ça veut dire que la notion répressive de la récidive bute contre des considérations extrêmement pragmatiques. Comment faire quand il faut mettre en place cette mesure répressive? Alors, deuxième solution, c'est ce qu'on appelle le bracelet électronique. On a l'habitude, nous, dans nos professions, de dire que le BlackBerry, c'est un bracelet électronique, puisqu'on sait à tout moment où on est, on peut nous joindre à chaque instant. Et quand on ne répond pas, on nous dit « Mais pourquoi vous n'avez pas répondu? Vous étiez où ?» C'est exactement ça, le bracelet électronique. Le bracelet électronique, c'est un système qui permet, effectivement, en matière de récidive, de suppléer le fait de ne pas être en incarcération, mais de pouvoir suivre la personne là où elle est. Il faut juste préciser que l'utilisation du bracelet électronique relève de deux idées tout à fait antinomiques, opposées. Ça peut relever de l'idée d'une confiance qu'on accorde à la personne. Écoutez, on vous fait confiance, vous sortez de prison, mais on veut quand même vous limiter votre espace de circulation. Faites preuve de respect de cette obligation et comme ça, vous ne resterez pas en prison. Première idée, c'est l'idée de confiance pour donner une chance supplémentaire. Mais à l'inverse, et en matière de récidive, quand on a des problèmes d'encellulement, l'utilisation de bracelets électroniques relève de l'idée de méfiance. On veut le suivre. On veut, pardonnez-moi, le localiser. J'allais utiliser le mot « le fliquer », entre guillemets. Mais l'idée, c'est tout à fait ça. C'est la seule façon pour notamment des délinquants sexuels, mais je pense que dans ce domaine-là, on aura peut-être quelque chose à dire sur le plan psychiatrique, puisque c'est dans ce domaine-là que les questions se posent de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à propos de la récidive? Eh bien, on essaye par tout moyen. Par exemple, en matière de récidive, la loi du 15 décembre 2005, elle a élargi le champ de la récidive. Sachez que maintenant, si on commet une infraction de la nature de celle qui est prévue par les textes français, mais dans un pays européen, cette infraction commise dans un autre État membre entre dans le compte de la récidive. La France cherche à mettre en place un casier judiciaire européen, un peu comme le permis de conduire, un peu comme le suivi des infractions au code de la route. Mais ça, c'est une aggravation assez extraordinaire, parce que si vous voulez tenir compte du fait que les frontières n'existent pas en droit européen, ben, il faut tenir compte du fait que ce qu'on commet sur le territoire d'un État doit être pris en considération. Dans certaines limites, ça c'est vrai, ce qu'il commet comme infraction du même type sur le territoire d'un autre État. Par exemple aussi, les circonstances aggravantes de la récidive peuvent être relevées d'office dans certains cas, alors que normalement, il faut que la question soit être évoquée par le parquet. Les magistrats, dans certains cas, peuvent relever d'office lorsque la personne poursuivie relève de la récidive. Évidemment, il faut lui permettre de s'expliquer pour respecter le contradictoire. Par exemple, la récidive, l'état de récidive dispense la juridiction de motiver le choix d'un emprisonnement ferme quand elle l'adopte, alors que dans certains cas, il faut expliquer pourquoi on adopte un emprisonnement ferme, notamment à l'égard des mineurs. Par exemple, la juridiction de jugement peut maintenant statuer à juge unique en cas de récidive, alors qu'il y a quelque temps en arrière, il fallait une formation collégiale, les enjeux étant très importants. Donc, on assouplit considérablement les règles procédurales à l'encontre des récidivistes. Et puis, par exemple, un mandat de dépôt ou d'arrêt peut être immédiatement délivré à l'encontre d'un récidiviste par une décision motivée, et ce, quelle que soit la peine prononcée, parce que, on le dit, ça suffit, vous entrez en prison directement. Le mandat d'arrêt, ça signifie que si on fait appel, on va en prison quand même, on sort de l'audience, encadré par les policiers pour aller directement en prison. Et puis, on terminera par le fait que les modalités d'aménagement des peines, qui est un principe assez important et qui relève de la personnalisation des peines, est en quelque sorte aggravé, durci à l'égard des récidivistes. Par exemple, la loi pénitentiaire 2009 ne permet pas de solliciter un aménagement d'une peine privative de liberté qui est prononcée à l'égard d'un récidiviste si la peine est inférieure ou égale à un an, alors qu'en droit commun, la peine peut être de 2 ans. Donc, on divise le seuil de tolérance par 2. Le régime de réhabilitation est durci par la loi de 2007 à l'égard des récidivistes. La réhabilitation, ça veut dire le fait d'effacer les conséquences sociales et civiques de la condamnation. Et enfin, la loi du 13 décembre 2011 exclut de nouvelles procédures simplifiées, par exemple l'ordonnance pénale. L'ordonnance pénale, c'est une procédure qui permet au ministère public de dire à une personne à l'encontre de laquelle l'infraction était établie, prouvée, voilà, on ne va pas aller en procès, voilà la peine que je vous propose, si vous acceptez, on s'arrête là, il n'y a pas de jugement. C'est ce qu'on appelle l'ordonnance pénale. Eh bien, cette ordonnance pénale, qui est une modalité de règlement rapide de procès pénal, ne peut pas s'appliquer en matière de récidive. Alors, est-ce que toutes ces mesures sont efficaces? Les statistiques montrent que non. Par exemple, entre 2009, en matière de crime, la récidive est de 5%. Les vols aggravés, 10% des infractions criminelles sont des vols aggravés. 4% des récidives en matière criminelle en 2009 sont des homicides. 4% de viols. Des 5% de récidive, c'est 5% par rapport à 95%, ce n'est pas beaucoup, mais c'est énorme en quantité. Pour les délits, la récidive, elle est de 15% en 2004, elle est de 12% en 2009, ce sont les derniers chiffres. En matière de vol, 15% des voleurs récidivent. En termes de politique pénale, c'est un échec. quand vous ajoutez... Vous savez, l'autre jour, j'étais à une audience, la 14e chambre, 48 dossiers pénals, pardon, 48 dossiers d'affaires pénales, donc pénaux, étaient à l'audience. Le juge a dit, mais moi, je ne peux pas gérer 48 dossiers dans une après-midi, il y en a 22 qui vont être envoyés. Comment voulez-vous analyser la personnalité, les raisons pour lesquelles on a récidivé, les conséquences de la condamnation ? Pardonnez-moi, le terme d'abattage n'est pas excessif dans certains cas. 48 dossiers en une après-midi, alors qu'en Allemagne, on a entre 4 et 5 dossiers avec une interruption d'audience pour que les magistrats retrouvent leurs esprits. Le 17 janvier, j'ai plaidé à Villefranche-sur-Saône à 10h30 du soir. Vous me direz que, après tout, c'est mon problème, mais la greffière était là, il fallait noter. Le procureur était là, il en avait ras-le-bol. Les magistrats voulaient rentrer. Voilà. Donc, le problème de la récidive, c'est un problème techniquement facile à élaborer, socialement, psychologiquement, philosophiquement, assez délicat à saisir. Je pense que vous allez le prouver.
Merci. Oui, elle est très bien.
Très bien. Bien, donc, je vais poursuivre. Donc, en traitant de la question sous un angle philosophique. Bien. Alors évidemment, récidiver, on vient de le voir, finalement, effectivement, le concept est assez simple. Il s'agit au fond de commettre la même faute, le même délit, le même crime. Jusque-là, tout va bien. Et donc, cette question, me semble-t-il, est abordée dans l'espace public, au fond, à travers, disons, deux positions extrêmes que j'aimerais rapidement présenter, de façon à ensuite les intégrer dans une perspective que j'espère plus juste. Et même si j'en ai le temps, j'aimerais peut-être poser donc des questions de fond et peut-être même métaphysiques, puisque la métaphysique, finalement, a son mot à dire sur toutes les questions graves, et c'en est une. Au fond, je présente rapidement ces deux, positions que nous trouvons disponibles, clé en main, j'allais dire, dans l'espace public. Il y aurait d'abord une manière qui serait peut-être celle d'un certain sociologisme, au fond, une manière qui tendrait à considérer que la récidive doit être vue et entendue sur le mode de la fatalité. Au fond, fatalité qui dissout mécaniquement jusqu'à l'idée même de liberté ou de responsabilité individuelle. Dans ce premier cas, la récidive est au fond la stricte conséquence, l'effet nécessaire des causes qui la déterminent, qui déterminent son auteur à poser le même acte délictueux au criminel, j'allais dire même cause, mêmes effets, point final. Alors les causes, cela peut être une histoire difficile, un certain mal subi dans l'enfance ou que sais-je, voire peut-être une disposition génétique malheureuse, bref, le tragique aléa de l'existence vous place malgré vous dans une situation, j'allais dire, proche de celle d'Œdipe, mais n'ayant pas même la faveur perverse, j'allais dire, de connaître par l'oracle le destin qui vous attend. Meurtre, récidive, jusqu'à un certain point, parce que là, ce n'est pas la récidive exactement au sens juridique, mais le meurtre puis l'inceste, au moins du point de vue des crimes qui sont posés, il y a effectivement une certaine persistance dans le crime. Et alors, dans ce cas-là, l'idée même de peine, au fond, perd tout son sens. Parce qu'au fond, la peine apparaît elle-même comme le fruit nécessaire de cette trajectoire de vie nécessaire elle-même. Et au fond, on pourrait presque dire que la peine est une injustice de plus. Voilà. Alors au fond, ça ce serait la première perspective, la nécessité. La nécessité réglerait au fond cette affaire. La deuxième position, donc extrême, mettra en avant, au contraire, la liberté. La liberté de l'auteur. J'allais dire comme une dimension, cette fois-ci, quasiment absolue. J'allais presque dire hors sol. Celle-ci serait sans excuse, pour reprendre une célèbre formule de Sartre. L'homme serait en lui-même non pas seulement libre, mais liberté. Et dans cette perspective, au fond, l'homme, le récidiviste, ne récolte que ce qu'il mérite, puisqu'il a voulu, au fond, le mal, et par là le châtiment. Ici, il faudrait convoquer un autre mythe, non plus Œdipe subissant son destin, mais Adam et Ève, et j'allais dire sans le serpent, qui choisissent au fond leur, comment dire, leur destin et qui l'assument totalement. Dans ce cas, un tel être, je dirais, devient le mal qu'il commet. Il coïncide avec l'acte qu'il pose. Il est tout bonnement son acte. Alors posons alors la question de façon crue, y a-t-il quelque chose alors à sauver en un pareil être? Au fond, à quoi bon punir celui en qui il n'y a plus rien à sauver? Le sens de la peine vacille ou semble vaciller à nouveau. Alors, face à cette opposition caricaturale, j'en conviens, d'un côté, le récidiviste ne pouvait pas ne pas récidiver. De l'autre, il n'a que ce qu'il mérite, il est perdu. Eh bien, il convient donc de reprendre la question afin de saisir le sens de la peine dans son rapport à la récidive. Car au fond, c'est l'hypothèse que je soutiendrai, mais d'autres l'ont fait avant moi et je m'appuierai ici sur Platon, ni plus ni moins, la peine judiciaire est portée en réalité par un sens qu'elle n'instaure pas. Un sens qui est inscrit dans la peine elle-même. J'allais dire que nous le voulions ou non. Allons droit au cœur, droit au but, et écoutons alors Socrate, tel que le fait parler et penser Platon, notamment dans le Gorgias. Je cite ce passage extraordinaire. C'est Socrate qui parle. Admettons qu'on doit faire du mal à quelqu'un, ennemi ou inconnu. Que faire pour faire le maximum de mal à quelqu'un? Réponse de Socrate. Dans ce cas, si on veut faire du mal à cet ennemi, il faut s'arranger par tous les moyens, paroles et actes, pour qu'il ne soit pas puni et n'ait pas à aller devant le juge. Et s'il y va quand même, il faut trouver le moyen pour que cet ennemi personnel puisse échapper à la punition. Très étrange. Je serai donc d'autant plus, méchant, si je puis dire, avec mon ennemi, que je lui épargnerai une visite devant le juge. C'est tout de même assez étrange. Et de fait, c'est précisément à ce moment que Calliclès sort de ses gonds et n'en peut plus. Il s'est dit, mais c'est pas possible de dire des choses aussi, absurdes. Et là, Platon sait très bien que Calliclès, d'une certaine façon, c'est nous. Nous résistons aux propos de Socrate. Finalement, nous ne les acceptons pas. Il y a un Calliclès qui sommeille en chacun d'entre nous, si vous voulez. Et la première réplique de Calliclès, elle mérite d'être pesée, j'allais dire méditée, c'est la suivante. Calliclès s'adresse donc à Socrate. « Si tu dis tout cela sérieusement, et si par hasard, c'est vrai ?» Parce que c'est quand même là le problème. J'allais dire que là, Calliclès, de ce point de vue-là, il est encore en relation philosophique avec Socrate. « Si c'est vrai !» Toute la vie des hommes, toute, pas simplement celle des récidivistes, toute, la nôtre y compris, toute la vie des hommes serait mise sens dessus dessous. Et nous, nous faisons, semble-t-il, tout le contraire de ce qu'il faut. Tout le contraire de ce qu'il faut. Peut-être. L'enjeu, c'est de savoir si, effectivement, Socrate dit vrai. Peut-être le dit-il, peut-être pas. Nous allons le voir, effectivement. Autrement dit, il faut comprendre au fond, l'articulation de cette position un peu étrange de Socrate, et pour la comprendre, il faut voir qu'elle repose sur deux principes. Le premier, il est énoncé dans le texte que je vous ai donné un petit peu, mais à peine plus haut, où effectivement, Socrate nous dit, quelque chose qui ne va peut-être pas de soi, le pire des maux, c'est l'injustice. Ça, c'est le premier principe. Le pire des maux, c'est l'injustice, et pas la mort. L'injustice. Bon. Deuxième principe, l'auteur d'une injustice peut s'amender. Alors, premier point de la démonstration, l'esprit est plus précieux, je dirais, est la part la plus précieuse de l'homme, l'âme au fond. L'âme est la part la plus précieuse de l'homme. C'est ce principe qui commande au fond l'idée selon laquelle l'injustice est le pire des maux. Et je parle bien de l'injustice commise et non pas subie. Pourquoi ? Parce que l'âme est le cœur de l'homme. Il peut posséder bien des choses sur la terre, du pouvoir, des richesses, de la réputation, mais si son âme est corrompue, intérieurement, par l'injustice, il est le plus à plaindre des hommes. objectivement, il est malheureux, objectivement, même s'il ne ressent pas ce malheur subjectivement. La corruption de l'esprit, au fond, corrompt tout ce à quoi il peut se rapporter. La démonstration est imparable sur le papier, absolument imparable. J'allais dire que si le ver est dans le fruit, peu importe la grosseur du fruit en question, il est gâté. Point final. Deuxième principe de la position platonicienne ou socratique, l'homme peut changer. Et au fond, c'est tout le sens de la peine ici qui est compris dans cette proposition. Au fond, il s'agit par la peine de contribuer à ce changement parce que le rôle essentiel de la peine, c'est de diagnostiquer le mal commis. Et en le diagnostiquant, c'est-à-dire au fond en le connaissant, en prenant conscience, il s'agit ensuite d'y résister. C'est donc reconnaître que l'homme, et ça je dirais c'est la condition de possibilité des deux principes que je viens d'énoncer, et surtout du deuxième d'ailleurs, c'est reconnaître que l'homme est l'auteur des actes qu'il pose, d'accord, mais n'est pas la somme des actes qu'il a posés jusque-là. Pourquoi ? Précisément parce que c'est un auteur. C'est-à-dire une source de paroles et d'actions possibles encore à venir. Autrement dit, je dois distinguer nettement et nécessairement l'auteur des actes et les actes eux-mêmes. Bien. Nous sommes donc maintenant, me semble-t-il, armés pour intégrer les deux positions extrêmes que j'ai précédemment présentées rapidement. Comment ? C'est que l'homme n'est pas dans sa liberté, commencement absolu, mais capacité de commencement au pluriel, j'allais dire, particulier, située dans une histoire. Cette capacité d'initier est inscrite dans le temps. Et je crois que c'est ça, au fond, la question de la récidive, c'est prendre en compte, justement, ce temps, cette histoire. Or, le temps est impliqué dans l'action, j'allais dire généreuse aussi bien que criminelle, à travers une réalité incontournable qui était oubliée dans les deux positions extrêmes que j'ai présentées au départ, je veux parler de l'habitude. De l'habitude. Écoutons Bergson définir ce qu'est la liberté dans la conférence « La conscience et la vie ». Le cerveau de l'homme, je cite, « a beau ressembler en effet à celui de l'animal, il a ceci de particulier qu'il fournit le moyen d'opposer à chaque habitude contractée une autre habitude, et à tout automatisme, un automatisme antagoniste. » Voilà. Il nous donne à penser ici que la liberté n'est pas absolue, qu'elle hérite d'habitudes passées, mais qu'elle n'en existe pas moins, en ce qu'elle peut précisément adopter de nouvelles habitudes. Telle est la liberté humaine située donc dans le temps. Et Félix Ravesson, qui est l'auteur d'un texte fameux sur l'habitude, précisément, note avec pénétration, je cite, « Rien n'est donc susceptible d'habitude que ce qui est susceptible de changement. » De changement. Voilà donc nos deux positions extrêmes du départ, prises au sérieux et intégrées dans une perspective qui ne disqualifie pas la réalité et la consistance de la liberté, ni de son inscription dans le temps, de cet être d'esprit qu'est l'homme, y compris récidiviste ou susceptible de l'être. Ce que nous disons ici, donc, ne regarde pas seulement les récidivistes, j'insiste là-dessus, mais bien tout homme, en tant qu'il est capable de liberté. Car si je ne m'abuse, nous connaissons nous aussi, dans cette salle, les difficultés liées à la pesanteur des habitudes subies, habitudes qui solidifient et parfois atrophient notre capacité de commencer quelque chose de neuf, pour reprendre cette définition de la liberté d'Anna Arendt. Nous ne connaissons que trop ce retour aux mêmes ornières dans nos propres existences, même si ces ornières, j'en conviens, ne sont pas sanctionnées par le code pénal. L'expérience alors, cruciale, me semble-t-il, rapportée par C.G. Lewis, mérite toute notre considération. Je vous la donne, un petit texte qui est tiré du problème de la souffrance. Pour échapper à ce dilemme, alors le dilemme en question, je le laisse de côté, mais enfin, il mériterait quelque attention, mais ce n'est pas l'objet ici. Pour échapper à ce dilemme, il faut observer ce qui se produit dans les relations humaines quand un homme de moralité inférieure entre dans la société entre dans la société de gens meilleurs et plus sages que lui et s'initie peu à peu à leur conception des valeurs morales, expérience que je me trouve pouvoir décrire avec assez de précision car je suis passé par là. Quand j'arrivais à l'université, j'étais à peu près aussi dépourvu de conscience morale qu'il est possible à un garçon de l'être. Une légère répugnance pour la cruauté et l'avarice représentait tout mon bagage. De la chasteté, de la loyauté, de l'abnégation, j'avais à peu près l'opinion qu'un chimpanzé peut avoir de la musique classique, humour britannique. Par la miséricorde de Dieu, je tombais dans un groupe de jeunes gens, dont pas un seul, soit dit en passant, n'était chrétien, suffisamment proche de moi par l'intelligence et l'imagination pour qu'un contact immédiat s'établit. Mais qui connaissaient la loi morale, ces jeunes gens, et essayaient de s'y conformer. Extraordinaire. Leur jugement concernant le bien et le mal était donc très différent du mien. Or, en pareil cas, voici ce qui arrive. Et ça, c'est absolument capital. On n'a pas le moins du monde l'impression d'être appelé à considérer comme blanc ce qu'on a jusqu'alors appelé noir. Je reprends parce que là j'étais. Bon. On n'a pas le moins du monde l'impression d'être appelé à considérer comme blanc ce qu'on a jusqu'alors appelé noir. Les nouveaux jugements moraux ne se présentent pas à l'esprit comme de purs renversements des jugements antérieurs, bien qu'ils les renversent en réalité, mais plutôt comme des seigneurs dont on attendait avec certitude la venue. On sait indubitablement, là c'est vraiment le savoir au sens platonicien, il faut savoir, on sait indubitablement dans quelle direction on va. Ce bien que l'on saisit est meilleur que les petites parcelles de bien que l'on possédait déjà. Cependant, il ne fait qu'un, pour ainsi dire, avec elle. Mais le plus frappant est que cette découverte de nouvelles valeurs morales s'accompagne d'un sentiment de honte et de culpabilité. On a conscience de s'être fourvoyé dans un milieu dont on n'est pas digne. Au fond, cette expérience, je crois que Platon l'a expérimentée au contact de Socrate. La honte. La honte de vivre à un niveau qui n'est pas digne de ce qu'il est. Et Socrate lui a permis, justement, d'ouvrir une perspective jusque-là insoupçonnée. C'est tout l'enjeu. L'enjeu ici, s'il est vrai que la récidive est au cœur de la question, ou plutôt que l'habitude est au cœur de la question de la récidive, l'enjeu c'est de savoir comment on peut, d'une manière ou d'une autre, transformer nos habitudes. C'est ça l'enjeu. Et d'une certaine façon, la prison devrait avoir cet objectif en tête. Or, vous ne l'ignorez pas, ce n'est pas tout à fait le cas. Ou en tout cas, je n'incrimine personne, je constate la réalité des choses. Vous le savez, au fond, cet étau immatériel et spirituel dans lequel les gens sont enfoncés, les gens en prison, mais comme tout un chacun, si l'on peut dire, eh bien, au fond, n'est pas justement desserré en prison, mais je dirais plutôt renforcé. Pour essayer d'en prendre la mesure, je vous donne un texte non pas tiré du milieu carcéral, mais d'un texte de Hannah Arendt qui s'intéresse à la crise de l'éducation. On pourrait dire que le rapport est un peu étrange ou éloigné, mais en réalité, la description qu'elle fait de ce que c'est qu'un groupe mérite toute notre attention et tous les témoignages que j'ai d'un ami qui travaille dans une maison d'arrêt comme directeur vont exactement, enfin corroborent tout ce que j'ai entendu jusque-là. Je cite ce petit passage. Quant à l'enfant, donc il s'agit de considérer donc un groupe d'enfants duquel les adultes se seraient extirpés. Que reste-t-il ? Quant à l'enfant dans ce groupe, et je crois qu'on l'a un peu tous vécu, ou à peu près tout ce dont il est question, quant à l'enfant dans ce groupe, il est bien entendu dans une situation pire qu'avant, c'est-à-dire avant qu'il n'y ait des adultes. Car l'autorité d'un groupe, et là pas seulement d'un groupe d'enfants, tout groupe si vous voulez, l'autorité d'un groupe, fût-ce un groupe d'enfants, est toujours beaucoup plus forte et beaucoup plus tyrannique que celle d'un individu, si sévère soit-il. Si l'on se place du point de vue de l'enfant pris individuellement, on voit qu'il n'a pratiquement aucune chance de se révolter ou de faire quelque chose de sa propre initiative. Et nous parlons bien de liberté ici. Il ne se trouve plus dans la situation d'une lutte inégale avec quelqu'un qui a, certes, une supériorité absolue sur lui, le maître, situation où il peut néanmoins compter sur la solidarité des autres enfants, c'est-à-dire de ses pairs. Mais il se trouve, bien plus tôt, dans la situation par définition sans espoir, et le problème qui nous guette quand nous traitons de la récidive, c'est bien le désespoir, dans une situation sans espoir de quelqu'un appartenant à une minorité réduite à une personne face à l'absolue majorité de toutes les autres. Même en l'absence de toute contrainte extérieure, bien peu d'adultes, et dans le cadre de la prison peut-être, enfin pas, j'ai quelques témoignages qui montrent l'inverse, mais enfin peu, bien peu d'adultes sont capables de supporter une telle situation, et les enfants en sont tout simplement incapables. Donc au fond, si vous voulez ici, il s'agit peut-être de reprendre, peut-être simplement, le milieu carcéral à partir de ces questions, au fond, pour essayer de poser modestement ces questions, c'est-à-dire comment le temps du milieu carcéral et l'espace de la prison sont organisés. Comment la question de la pudeur, de l'intimité, de la promiscuité sont traitées au service, justement, de cette réalité dont nous parlons ici. La question du silence, la question de la promenade. Serait-il possible que des détenus puissent se promener, j'allais dire seuls, jusqu'à un certain point, seuls? Le problème des douches, problème crucial. Comment faire s'il s'agit simplement de se lever à 5 heures du matin pour être à peu près tranquille et prendre sa douche, etc. Oui, c'est ce genre de choses. Le problème de la solitude, donc le problème des soins, on en parlera bien sûr, et puis le problème de la parole, le problème du dialogue. Bref, j'allais dire, quel est le sens de la liturgie carcérale, passez-moi l'expression. Quel est le sens des rites qui rythment le temps et qui organisent l'espace de la prison? Ce sont ces questions qu'il faut sans doute poser à nouveau frais. Même si ce n'est pas la panacée, mais en tout cas, il est nécessaire de les poser. Et donc, la question, me semble-t-il, ne doit pas en rester là. Il faut aller plus loin. Sommes-nous collectivement en mesure de susciter un écart entre le monde carcéral et le monde tout court que nous habitons? Écart aussi substantiel que celui que C.G. Lewis a mesuré en entrant à l'université. Au fond, la question que j'aimerais poser, c'est celle-là. Que disons-nous, par exemple, collectivement, de la sexualité et de sa signification, qui soit essentiellement différente de ce qui accourt largement en prison? Quel sens accordons-nous spontanément aux richesses et aux réputations, c'est-à-dire à l'argent et à la célébrité, qui soit bien différent de ce qui accourt largement en prison? Que disons-nous collectivement de l'effort et de l'immédiateté qui soit bien différent de ce qui accourt largement en prison? Pensons-nous réellement comme Socrate et contre Calliclès que l'injustice est le pire des maux? Le pire? Pensons-nous et agissons-nous en prenant au sérieux le rythme de la vie de l'esprit que nous sommes? Au fond, ces questions ne peuvent pas être éludées. J'allais presque dire, prenons la mesure de notre prison. De notre caverne, pour parler là encore comme Platon, de nos récidives et donc de nos impasses, ne vivons-nous pas collectivement comme s'il n'y avait pas d'issue? Nous ne pouvons tout simplement pas faire l'économie de cette question qui implique alors un examen métaphysique. Cet examen, je ne sais pas si j'ai le temps de l'aborder ici, c'est juste là. Ça fait combien de temps là? 18 minutes, bon alors je un petit temps, très bien. Alors, je vous propose quelques pistes ici. Il est alors essentiel, me semble-t-il, de découvrir, de redécouvrir que l'existence que nous portons n'est pas sans orientation. J'allais presque dire sans boussole existentielle. Qu'est-ce en effet que l'esprit? Je donne une réponse, là aussi très audacieuse, de Bergson. Réponse positive, il définit ce que c'est que l'esprit, ce que nous sommes. Une force qui visiblement travaille devant et en nous, qui cherche à se libérer de ses entraves et aussi à se dépasser elle-même, à donner d'abord tout ce qu'elle a et ensuite plus qu'elle n'a. Et aux yeux de Bergson, c'est ça qui qualifie l'esprit, être capable de donner plus que ce que nous avons. C'est ça vraiment la, la nouveauté dont est capable l'esprit. Et donc la liberté, c'est vraiment ça l'enjeu. Le sens de l'existence, pardonnez-moi, n'est pas libre. Le sens de l'existence n'est pas libre. Il y a en nous une puissance, si l'on peut dire qualitative, dynamique, qui se lève en nous et dont nous ne pouvons pas ne pas tenir compte. Nous n'existons pas comme la pierre, parce que nous sommes esprit. Et être esprit, c'est être traversé par un élan, un désir, appelez ça comme vous voudrez, qui nous constitue et qui vient de plus loin que nous. Alors, évidemment, vous m'entendez et vous dites d'où viennent ces propositions fumeuses et abstraites. Alors, je vous propose de concrétiser mon propos à partir d'une expérience très simple que nous connaissons tous, l'expérience de l'ennui. Parce que l'expérience de l'ennui me semble précisément le lieu de la prise en compte, j'allais dire négative, en creux, de cet élan, de ce désir dont je souhaite parler ici. Et je vais le faire à travers donc ce philosophe presque contemporain, Michel Henry, parce que précisément dans ce cadre, dans le cadre de la barbarie, il établit un lien qui nous intéresse du point de vue de la récidive entre ennui et violence. Entre ennui et violence. Bien. Pour le comprendre, il faut faire référence à une expérience paradigmatique que nous avons tous vécue quand nous étions petits. Il y a un moment donné où on joue à tel et tel jeu. Bon, pour moi, c'était les Lego et les Playmobil. Et puis à un moment donné, effectivement, on va voir maman ou papa et on dit « je ne sais pas quoi faire ». Je ne sais pas quoi faire. Il y a quelque chose qui me pousse vers maman, papa pour dire « mais j'aimerais savoir quoi faire ». Bon, le rôle de maman ou de papa, c'est de dire au fond « mais as-tu joué à cela ?»« Oui, dernièrement, je n'ai pas tellement envie. » Et à cela ?» C'est vrai que ça fait un moment. « Oh oui, ça j'ai envie. » Hop, retour. Bon, il y a un moment donné, les Lego, ça ne marche plus. Il y a un moment donné, les Playmobil, ça ne marche plus. Et donc, et pour autant, la force et la puissance vitale qui est en nous est toujours là. Et nous ne pouvons pas faire comme si elle n'était pas là. Elle, jusqu'à un certain point, elle nous sature. Et le problème de l'existence adulte, au fond, c'est de trouver des voies d'épanouissement et d'accroissement de cette dynamique qualitative qui est en nous. Et au fond, c'est à partir de là que Henri propose, j'allais dire, une phénoménologie de ce que c'est que l'ennui. Et pensons au désœuvrement, j'en pensais quand vous parliez des trafic de drogue, etc. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes ici. L'ennui est justement, nous dit Henri, la disposition affective en laquelle se révèle à soi-même l'énergie inemployée. Une énergie inemployée. Dans l'ennui, à chaque instant, une force se lève, qualitative, se gonfle d'elle-même, se tenant prête, disposée à l'usage, c'est-à-dire à l'effort, qu'on voudrait en faire. Mais que faire ? Je ne sais pas quoi faire. Voilà cette fameuse formule. Je ne sais pas quoi faire. Aucune des voies hautes tracées par la culture, éthique, esthétique, religion, et donnant licence à cette force de s'employer, à l'énergie de se déployer, à la vie de s'accroître d'elle-même et d'accomplir son essence, aucune de ces voies ne se présente à l'ennui pour que s'engage en elle, pour que s'engageant pardon, en elle, il se décharge de ce que l'inaction a d'oppressant. De ce que l'inaction a d'oppressant. Au fond, il y a malaise, et dans le langage de Henri, il y a barbarie dans une civilisation, et j'allais dire dans un être en particulier, chaque fois que l'énergie de la vie, lui il parle de vie, on pourrait parler d'esprit, bon, là, petite pomme de discorde là-dessus, mais c'est pas grave, chaque fois donc que l'énergie de la vie demeure inemployée. Parce que plus rien n'est proposé à l'homme, à son voir ou à son faire, en tant que tâche infinie à la hauteur et à la mesure de son énergie. Le rôle d'une civilisation, si l'on peut dire, c'est de proposer des voies de cet ordre. Et quand elle n'existe plus, ou quand la société elle-même n'y croit plus, eh bien, il n'y a pas de raison que ceux qui entrent les prisons y croient davantage. Je dirais qu'il y a même moins de raisons pour eux. Cette force inemployée n'en demeure pas moins. Et elle suscite alors un mécontentement de soi, une angoisse, dont il s'agit de se défaire littéralement par tous les moyens, y compris les plus immédiats, les plus grossiers, à distance de tout effort, vérifiant négativement la loi de la vie comme de l'esprit, que Henri donne ainsi, la mollesse engendre la violence. Vous voyez ? À méditer. Lorsqu'il est question donc, et je termine par là, lorsqu'il est question de prisonniers, le philosophe, le professeur de philosophie, est irrésistiblement tenté de penser à Socrate, et donc, vous l'avez vu, retournant étonnamment dans la caverne pour tenter de libérer ses occupants enchaînés. En définitive, un autre doit me sauver de ma caverne, de mes habitudes délétères, de mes récidives, et m'offrir une voie d'accroissement qualitative et cette problématique regarde tout homme. Mais il faut l'affirmer, elle n'est pas sans issue. Et au fond, je crois que l'existence même de la prison en témoigne et ne doit cesser d'en témoigner. Car Bergson, comme Henry, comme Lewis nous le montrent, il y a quelque chose en nous qui est capable de reconnaître ce qui l'élargit. Et il y a des hommes, Socrate en étant, il en est d'autres, en serons-nous. Pensons aux visiteurs de prison ou aux soignants, etc., dans le cadre carcéral. Il y a des hommes donc, je cite à nouveau Bergson, créateurs par excellence, dont l'action intense elle-même est capable d'intensifier aussi l'action des autres hommes et d'allumer, généreuse, des foyers de générosité. Je termine tout à fait en disant que Céline, qui n'est pas suspecte d'optimisme débridé, atteignait au fond la même considération. Je cite exactement, exactement, ça va être page 457, quelque chose comme ça, je l'ai pris tout à l'heure. Voilà ce que dit Céline, dans cette prison à ciel ouvert, au fond, qu'est notre monde à ses yeux. J'avais bien senti, bien des fois, l'amour en réserve. Il y en a énormément. On ne peut pas dire le contraire. Ça ne sort pas, voilà tout. C'est pris en dedans, ça reste en dedans, ça leur sert à rien. Ils en crèvent en dedans. D'amour. Merci de votre attention.
Oups. Très bien. Je ne sais pas si je fais bien de parler après lui, d'ailleurs, hein, parce que, mais je l'ai voulu. Je l'ai voulu peut-être aussi un peu. Non, ce n'est pas du masochisme, mais je pense qu'il y a beaucoup à reprendre sur certains de ces points de l'argumentation, d'ailleurs, d'Henri sur la fin. Hein. Au début, je pensais justement à ce philosophe que citait Voltaire, j'ai oublié son nom, mais vous le savez sûrement, qui raconte qu'il avait fouetté son esclave, et son esclave lui dit, parce qu'il avait volé, « Mais pourquoi me fouettes-tu, puisque mon destin est d'être voleur ?» Et il lui répond, « Mais ton destin est aussi d'être frappé. » Et on a déjà là peut-être une certaine introduction du sens de la peine, un peu différente. Moi, je plaide pour l'ennui. Je pense que si on ne gaspille pas la moitié de sa vie, on ne jouit pas de l'autre. Et puis que l'ennui en lui-même est peut-être justement ce qui va permettre à un moment d'employer l'énergie et d'accéder à la créativité. On l'a vu d'une certaine façon d'ailleurs à la prison des mineurs. Quand on a ouvert l'EPM, on avait un idéal pédagogique de prise en charge extraordinaire, d'accompagnement, peut-être pas de refaire tout ce que l'éducation avait raté en profitant de ce court temps d'incarcération, mais l'idée en tout cas de n'en gaspiller rien. Et on est arrivé à faire un emploi du temps tellement dément que les gamins ne pouvaient qu'y échapper par tous les moyens, parce qu'ils étaient coincés entre les heures de sport, les heures d'enseignement, les heures de tout ce qu'on veut, et puis plus d'heures de télé pour bien dormir, un sommeil obligatoire, plus d'heures de quoi que ce soit qui puisse être un plaisir volé. Les plaisirs organisés faisaient partie en quelque sorte de la peine.
Je crois que Henri serait d'accord avec vous.
Alors, finalement, bon, je vais quand même essayer de parler un petit peu, pas seulement en réponse au philosophe, en commentaire, mais avec l'idée que le psychiatre a une position qui souvent est présentée comme une position de quelqu'un qui s'intéresse à la personne et à la personnalité. En tant qu'individu, en tant qu'entité, certes humaine et en relation, mais avec l'idée qu'il y a des choses à décrire de l'homme en tant que tel, de la personnalité, de son fonctionnement, de son économie psychique, de la manière de réagir en fonction de différents problèmes. Mais on s'aperçoit très vite qu'il est impossible pour le psychiatre de considérer l'homme en tant que tel et qu'il est toujours un petit peu, sinon avec des compétences de sociologue qu'il n'a pas toujours, mais il est obligé de placer l'homme dans la société et de comprendre en quelque sorte pourquoi tel ou tel symptôme, pourquoi telle ou telle pathologie, telle ou telle tendance de l'économie psychique apparaît ici et maintenant. Et ce n'est pas seulement une question de biologie, c'est presque toujours une question collective et sociale. Et donc je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'en ce moment, la récidive apparaît en quelque sorte exaltée comme étant le problème numéro un sur lequel il faut qu'on se penche avec des solutions d'urgence. Et comment est-ce qu'elle est présentée de manière insupportable comme le crime des crimes, surtout si crime des crimes, elle intéresse le crime sexuel et a fortiori le crime sexuel sur les enfants. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait réfléchir, et entre autres sur, par exemple, le déni. Hein, j'emploie le mot, on va voir qu'il fait aussi florès dans le discours psychiatrique et psychologique, le déni de la nécessité pour l'homme ou de la nature de l'homme d'être raciste. Je ne crois pas qu'il soit naturel de dire « je ne suis pas raciste » parce que tout de suite derrière, vous avez le « mais » et arrivent les éléments qui montrent qu'en réalité, je suis dans la défiance à l'égard d'autrui. Non, la tendance, c'est « je suis raciste », c'est-à-dire que j'ai peur de l'autre, c'est normal. Et j'ai peur de l'autre de deux manières, soit parce qu'il est trop près de moi et qu'à ce moment-là, cette similarité qui peut me rassurer me met aussi en inquiétude, en défi de dominer ou bien de trouver les points quand même qui me permettent d'exister en différence, soit parce qu'il est vraiment trop différent, mais en général, c'est plus facile d'accepter la vraie différence à distance, qui est moins gênante, que se rapprocher, par exemple, dans une nouvelle communauté qui s'installe, qui prend nos tics et nos manières de fonctionner tout en gardant les siennes, et qui donc nous met en situation d'être inquiets et de ne pas se reconnaître facilement. Donc la solution, c'est pas... Je ne suis pas raciste, mais vous ne m'ôterez pas de l'idée que ça pue quand ils font la cuisine dans l'escalier ou je ne sais pas quoi. C'est je suis raciste, mais je m'efforce que dans chaque personne que j'aborde nouvelle, je ne laisse pas mes pulsions s'exercer à son égard. Et je lui laisse sa pleine chance d'être homme en face de moi. Et comme on a jeté l'anathème sur cette pensée, parce que quand on regarde actuellement ce que devient l'incrimination en matière sexuelle, on se rend compte qu'on a de plus en plus tendance justement à demander au droit de faire la morale. Or, le droit ne fait pas la morale, et s'il encadre par des règles un certain nombre de comportements, en général d'ailleurs de façon négative et non pas positive, le droit ne dit pas ce qu'on doit faire, mais la punition qu'on va recevoir, si on fait, eh bien, on s'aperçoit qu'on est infiltré de plus en plus de jugements moraux en essayant de faire passer des valeurs qui sont beaucoup plus subtiles que de simples valeurs de comportement et de transgression à travers les peines. Et quand vous regardez l'escalade des peines qui punissent les crimes sexuels, et en plus la nature des incriminations, où vous en êtes arrivé maintenant, il y a deux délits virtuels en France, je parle sous le contrôle de notre amie Dana, l'association de malfaiteurs, où on vient vous punir pour avoir préparé quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, on trouve des cagoules, des armes, etc., le plan de la banque et les horaires du directeur, on en conclut que vous alliez attaquer et on peut vous punir, même si vous n'avez pas encore levé le petit doigt, et peut-être que vous prépariez un film et c'était un fantasme, mais on ne passera pas comme ça. Et l'autre, c'est la possession dans votre ordinateur de matériel pornographique, infantile, mettant en scène des enfants. Même si avec Photoshop, vous avez inventé un enfant qui n'existe pas, qui subit des crimes qui n'ont pas eu lieu, eh bien, vous pouvez être puni pour le caractère. On ne vous punira pas si vous avez quantité de petits martiens avec du sang bien vert, comme dans les jeux vidéo. Mais si dans un jeu vidéo, même à votre usage personnel, vous mettez en scène un enfant qui subit des avanies, eh bien, vous pouvez être poursuivi. On n'est pas loin d'un péché par la pensée. Et ce péché par la pensée infiltre un peu déjà toute la législation sur la délinquance sexuelle, et elle bave, je dirais, sur la conception de la récidive. Le récidiviste, c'est celui qui ose résister, finalement, à cette espèce de consensus social-moral que le droit essaye de tendre, comme un filet autour des comportements avec un sens qu'on ne peut plus ignorer quand on est au XXIe siècle. Et il y a un autre élément qui fait que cette récidive est exaltée en tant que telle, en tant que crime absolu, c'est l'aspect de la dangerosité perçue. Et là, on va avoir à réfléchir sur l'alliance vénéneuse des médias et du politique qui nous fait voir finalement ce que nous aimons voir aussi. Il ne faut pas croire que les médias inventent. Les médias savent seulement faire du surf sur l'inconscient collectif et repérer quels sont les éléments vendeurs qui peuvent faire de l'audience, certes, mais qui peuvent aussi, dans une espèce de boule de neige, engendrer davantage encore d'intérêt en fournissant ce que l'on attendait de voir. Et si vous regardez les choix que font justement les médias quand ils rapportent les crimes essentiels ou les crimes les plus noirs ou spectaculaires ou les plus répréhensibles pour la société. Ces choix n'ont absolument rien à voir avec la réalité de leur fréquence, avec la réalité de la menace qu'ils représentent pour chacun ou pour la société, et avec la réalité aussi de l'horreur des gestes qui sont incriminés. Prenez par exemple l'affaire de Laetitia, qui nous vaut, soi-disant, qui nous a valu une loi de circonstance aussi. Vous avez une loi par joggeuse, pratiquement, qui soit sur ces 10 dernières années. Et on a beau nous dire, j'ai eu une petite joute avec notre excellent garde des Sceaux sur FR3, où il est arrivé, il avait son chef de cabinet lui avait dit ce que j'avais dit la veille à mon croisé, donc il avait répondu par avance. Ça n'est pas une loi de circonstance. Hein. D'ailleurs, elle était prévue depuis très longtemps. Sauf que on continue quand même à l'appeler effectivement la loi Agnès, parce qu'il y a plein de choses, entre autres, ce truc énorme, il faudra dorénavant que les directeurs d'établissements soient avertissent le rectorat quand ils hébergeront un criminel. Mais est-ce que vous pouvez, ça m'apparaît aussi extraordinaire que, comment l'autre, j'ai la minimisation du risque d'aggravation, la loi du 10 mars 2010, dont l'énoncé est si fantastique. Enfin, bon, cette espèce de réponse ping-pong au crime qui est mis en évidence par les médias, d'une façon qui, d'une part, est fausse sur le plan criminologique, orientée totalement vers des aspects arbitraires les plus vendeurs, les plus cosmétiques, si on veut, et puis qui va occuper un terrain dont le coût est exorbitant par rapport à l'ensemble des autres informations qui vous sont données. L'affaire de la petite Agnès ou l'affaire Laetitia ont occupé 3 jours en continu, avec l'interview des complaisants, des voisins qui pleurent en disant on n'aurait jamais pensé que, l'interview de... Enfin bref, je vous le passe, vous l'avez déjà vu. Mais dans le même temps, par exemple, que vous avez 4 jours sur l'affaire du Chambon-sur-Lignon, il y a eu 4 jours, vous aviez un type qui foutait son gamin de 3 ans dans la machine à laver. Alors, il aurait peut-être fait un petit quelque chose s'il avait été tout seul, mais il était totalement éclipsé à ce moment-là. Et bien que ce n'était pas la première fois, il était récidiviste de cette punition. Alors, ça a fait quelques lignes en page 4 des journaux et il n'y a pas eu une image au journal télévisé. Dans le même temps, vous aviez une comorienne, une jeune qui faisait de l'assistance familiale, je lui jette pas la pierre comme on dit, mais qui passait au tribunal, qui passait aux assises pour avoir brûlé ses deux patrons. 85 et 86 ans, impotents dans leur fauteuil, arrosés d'un produit inflammable, je ne sais plus lequel, et qui étaient morts donc parce qu'ils avaient osé se plaindre qu'elle faisait valser leur carte bleue. Et pour les punir d'avoir obtenu son licenciement, elle les a tués par incendie. Bon. Ça a aussi été totalement non rapporté. C'est vraiment une affaire de spécialiste qui suit les affaires d'assises, de savoir que cette femme a été condamnée à 15 ans, alors que la moyenne d'un viol sur mineur est actuellement de 169 mois de détention accomplie, c'est-à-dire d'une peine initiale bien supérieure. Peine d'ailleurs supérieure au meurtre de l'enfant lui-même, qui sera de 149 mois seulement, 20 mois de moins. Bref, je passe là-dessus pour vous faire percevoir que la dangerosité perçue par les médias en connivence avec le politique dans le micro-trottoir à qui on fait dire immédiatement qu'est-ce que vous allez faire, ou bien que pensez-vous de ce qui arrive, etc. Et vous avez deux réactions immédiates, le compassionnel pour les victimes et l'idée qu'il y a eu forcément défaillance du terrain. Et là, vous retrouvez l'horreur de la logique managériale qui nous a envahis de partout, avec ses buts, la culture du résultat. Pour être efficace, ben finalement, il ne faut pas que le manager connaisse trop de ce qu'il dirige. On a vu, par exemple, qu'on a fait des rafales ou des FAMAS totalement invendables par rapport au Kalachnikov bien rustique qu'on peut réparer dans un garage, parce qu'on écoute les ingénieurs ou les généraux qui se font plaisir sur les caractères idéaux de l'arme et non pas sur une arme qui pourrait être vendue. Alors si on écoute trop non plus les gens du marketing, on va faire effectivement quelque chose qui se vend, mais ça ne sera pas tout à fait adapté au rythme de production, etc. Donc le manager dit, moi, je sors d'une fabrique d'enveloppes, je suis l'homme idéal pour faire des armes, parce que je connais les principes, et je vais ignorer les ingénieurs, etc. Alors, cette logique, qui a une certaine vérité, qui aboutit d'ailleurs, par certaines dérives, à la loi du marché et aux aspects financiers qu'on connaît actuellement, finit par donner un système qui est tout à fait extraordinaire, où peu importe la méthode, c'est le résultat qui compte, et c'est ça qu'on affirme dans le discours médiatique, quand on vous tend le micro-trottoir en face d'une récidive, on dit, avec moi, demain, on va d'abord identifier ceux qui n'ont pas réussi à empêcher que le petit Tony tue Laetitia. Comment ? Il était sous contrôle judiciaire ? Oui, mais il était sous contrôle judiciaire pour outrage à magistrat. Vous ne pouvez pas non plus... tout ça parce qu'il s'était plaint de du juge aux affaires familiales qui avait, lui avait pas donné ses enfants. Enfin bref, je vais passer un petit peu plus vite pour avancer là-dessus. On en arrive à faire que les principes de la loi soient de plus en plus détaillés pour prévoir l'imprévisible et pour enfermer résultat avec les faits qui sont têtus pour aller à la poursuite d'un résultat imposé aux professionnels qui disent c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou bien la causalité n'est pas aussi simple que vous le dites. Vous pensez bien qu'avec le 20 heures, la causalité doit être simple. Oui. Vu que vous avez 1 minute 30 secondes pour un très gros sujet. Et on vous dit, bon docteur, il y a au moins 30 secondes pour vous. Donc vous pouvez y aller, détendez-vous, parlez-nous de la récidive en 30 secondes. Alors, ce système-là a abouti à faire que on s'épuise et on court après une conception qui, en fait, repose sur déjà quelque chose qui est, au niveau du vocabulaire, mérite d'être précisé. On a parlé de réitération. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de relapse, comme Jeanne d'Arc, rechute et lapsus, on tombe. On retombe, réitération, on refait le parcours, on continue indéfiniment. Ce qui laisse à penser, d'ailleurs, qu'on fait ce qu'on sait faire. Alors, on retrouve, est-ce qu'on est prédestiné, effectivement, à voler ou autre ? C'est une question qui est importante, parce que, dans le pragmatisme de la culture du résultat, on va arriver aussi à poser la question, bon, est-ce qu'il n'y a pas des ours blancs qui sont, finalement, des dangereux fauves, mais qu'on doit respecter écologiquement au nom de la diversité biologique et pour lesquels on va faire des réserves ? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui ont un déterminisme à la récidive et il faut donc qu'on apprenne à les repérer ? Ah, dans la logique managériale, j'ai oublié de dire que l'évaluation est forcément ce qui va permettre de trouver le compromis entre le malheur et la souffrance du terrain et des acteurs qui se voient négligés dans tout ce qu'ils peuvent avoir à dire sur le fonctionnement de l'entreprise et son but, et puis les systèmes imposés d'en haut par le manager qui ne veut rien comprendre. Eh bien, l'évaluation, c'est un peu comme la méthode des éléments finis. Si on arrive finalement à trouver la petite équation mathématique qui régit un micro-élément, eh bien, on va pouvoir, c'est accessible, et on va pouvoir générer la courbe qui fait l'ensemble du pont ou qui fait toute la résistance du matériau sur une quantité beaucoup plus grande. Donc, on finit soulagé par accepter des évaluations qui vont être très fractionnées et qui vont être maîtrisables, qui vont être des compromis et qui vont permettre, d'une certaine manière, de trouver quelque chose, au moins encore ce langage commun qui avait disparu. Alors, en matière de récidive, c'est tout à fait évident. Vous avez dit, dépistons les ours blancs. On va essayer de les soigner, mais ceux qu'on ne peut pas soigner, on va les parquer dans le système de la surveillance, ou avec, maintenant, quand vous regardez dans la dernière loi qui vient d'être votée et dont les décrets ne sont pas encore parus, mais pour laquelle j'ai été auditionné par le Sénat et par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sans qu'aucun amendement, bien entendu, ne vienne écouter les professionnels. 22 janvier, je crois, hein, qui est donc celle de la loi de programmation sur la prévention de la récidive, qui prévoit justement, par exemple, la création de la surveillance électronique en fin de peine, qui prévoit le nombre de places de prison conséquents, 4 niveaux de sécurité nouveaux pour faire des économies, en supprimant les miradors dans certaines prisons, ce qui est tout à fait possible. Hein. Il y a 80% des prisonniers d'une maison d'arrêt pourraient être prisonniers sur parole. Où voulez-vous qu'ils aillent, et quel intérêt aurait-il à risquer l'évasion, hein. Et puis, ils sont quelque part plus ou moins d'accord avec ce qui leur arrive.
On a le futur ministre de la Justice.
Non, mais c'est tout à fait...
C'est le garde des sous.
Bref, si vous voulez, la loi de programmation prévoit aussi la question, ce qu'on est en train de parler d'évaluation, du diagnostic à visée criminologique. Parce que, là encore, ces crétins de psychiatres ou ces dangereux rêveurs de psychiatres qui osent parler de clinique, qui osent faire des différences dans la perception de la dangerosité entre l'illusion d'une dangerosité absolue qui ne serait pas faite des circonstances et qui serait le fait de la personne. Et qui osent dire, on ne peut pas vous dire qui est dangereux si on ne sait pas en même temps dans quelles conditions cette personne va être placée. Est-ce qu'elle va boire en même temps? Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un d'agressif ou quelqu'un qui lui fait peur? Est-ce qu'elle va être en situation d'extrême excitation ou tension parce qu'elle a été frustrée? Est-ce qu'elle va, etc., etc. Il n'y a pas de dangerosité, comme le dit Roussillon, solipsiste, qui existe en elle-même. On a certes des tendances, on peut décrire une personne qui a une richesse pulsionnelle très forte, mais quand quelqu'un est systématiquement dangereux, c'est qu'il est déjà tellement fou qu'il a toutes les chances d'être déjà enfermé, hein, et qu'on le soigne même par contention, et c'est pas une situation qui va durer longtemps. Non, vous-même, quand vous écoutez d'ailleurs, à propos de la délinquance sexuelle, l'homme de la rue interviewé complaisamment, mais les propos de café du commerce, si ça avait été ma fille, il serait déjà mort. Hein, qu'il n'y a pas besoin de prison, qu'on me donne, moi, laissez-moi 2 heures avec lui et vous allez voir. Rétablissons la peine de mort, etc. La dangerosité des gens quand on imagine qu'on va toucher à leur famille est aussi une chose tout à fait extraordinaire et qui d'ailleurs intervient dans le fait de cette dangerosité perçue de la récidive exaltée comme le crime des crimes, parce que nous ne supportons pas ce qui est aléatoire. Quand il s'agit de la dangerosité intrafamiliale, il peut mettre son gamin dans la machine à laver, une affaire de famille. Bien sûr qu'on va signaler les événements indésirables, bien sûr qu'on va utiliser là encore la loi de 2002 pour leur renforcer le pouvoir des maires et de donner au rectorat l'idée des situations préoccupantes. Et Dieu sait qu'il va y en avoir des situations préoccupantes. Maintenant, on vous signale les enfants qui jouent au docteur, hein, on ne sait jamais des fois que les parents porteraient plainte contre les profs, puisqu'il faut trouver une cause à tout. Hein. Donc, je me mets à couvert et j'ouvre le parapluie. La culture du résultat et l'évaluation suppose aussi qu'on ait une belle collection de parapluies à épanouir un petit peu systématiquement. Hein. Alors donc, je suis moi-même un peu décousu, hein, je m'excuse, mais enfin, c'est cette vision donc de la récidive qui nous est donnée par la recherche forcenée de sa suppression en société, elle ne correspond pas du tout du point de vue psychologique à la même chose que du point de vue du droit. Et je disais qu'en général, quelqu'un utilise ses mécanismes de défense, ce qu'il sait faire. Il utilise la manière d'être dont il a plus ou moins hérité. Alors si on veut maintenant être dans le déterminisme total, qu'il soit d'ailleurs psychodynamique ou qu'il soit neuroscientifique, on a plein d'outils. On a plein de gens qui sont d'accord pour aller dans l'évaluation et vous dire « Mais moi, je vais vous dire ceux qui sont dangereux et surtout, je vais vous dire ceux qui le seront. » Et là, vous voyez apparaître pour les psychiatres un danger terrible d'être tournés dans leur... je vais pas dire sur leur droite ou sur leur gauche, j'en sais rien, mais ils sont tournés par leur propre troupe, trahis par leur propre troupe, de ceux qui disent « Moi, je sais ». Et qui adopte surtout cette vision qui est implicite dans la conception politique actuelle et dans sa traduction dans les lois, une personne sera ce qu'elle a été, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire je suis mes actes, mais je suis aussi mon être, et si je peux définir le trouble de personnalité qui conduit inéluctablement au passage à l'acte. Alors, il y a la dangerosité, mais il y a aussi le fait qu'il y a la tendance à la récidive. Il y a ceux qui ne peuvent pas entendre les leçons de l'expérience. Mais la récidive, elle est naturelle, je dirais, chez 90% de la population qu'on trouve dans une prison. Et pourtant, il n'y en a pas 90% qui récidivent. Donc, je trouve qu'au contraire, nos braves criminels ont la gentillesse d'invalider cette proposition. Il y a dans une prison, sans parler de récidive au sens technique, c'est-à-dire faire deux fois la même chose, des gens qui sont déjà venus, hein, qui sont déjà venus en prison. Il y a, vous avez la moitié de primaires et la moitié de gens qui sont déjà venus dans une maison d'arrêt. Mais en réalité, comme ceux qui sont déjà venus reviennent un peu plus souvent, il y a 70 ou 75% des gens qui sont en prison qui ne reviendront jamais. Donc non seulement la récidive au sens technique est extrêmement rare, mais la défaillance est le plus souvent unique. Même si ceux qui ont été une fois défaillants et qui le sont deux fois vont l'être souvent beaucoup plus. Mais ceux qui vont donc refaire indéfiniment les mêmes gestes délinquants, est-ce que nous sommes sûrs qu'ils ont la compétence sociale et relationnelle de faire autrement? Je ne parle pas là forcément en termes de déterminisme, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, même si on s'aperçoit que, en faisant des recherches de neuroimagerie, eh bien, certains, en face d'un problème moral, qu'ils vont pourtant résoudre de la même manière que le voisin, en choisissant le bien, ne vont pas mobiliser du tout les mêmes structures cérébrales. Vous voyez par exemple l'amygdale, qui est le centre, l'amygdale cérébrale, qui est le centre de certaines émotions, de la colère, hein, et qui va s'illuminer chez le psychopathe en présence d'un problème où il est susceptible de réagir de façon violente. Et même s'il ne réagit pas de façon violente, il aura dû lutter contre un éveil instinctuel manifeste révélé par la biologie. Lequel est le plus dangereux? Celui qui débat avec lui-même ou celui qui est naturellement gentil? Les mêmes études de neuroimagerie cérébrale mettent en évidence que certaines personnes, alors est-ce que c'est des béni-oui-oui ou des moutons, qui font naturellement le bien, n'éveillent pas leur cortex frontal en présence d'un choix moral. Ils peuvent faire ça avec le tronc cérébral et les structures internes, hein, en quelque sorte. Alors que le psychopathe, lui, ça va flamber. Et vous allez voir qu'au contraire, des tas de fantasmes, auxquels vous n'avez pas forcément accès, mais des tas de fantasmes agressifs accompagnent la décision qu'il va prendre. Si on se met à continuer à être dans l'idée qu'on est ce qu'on est et qu'on fait ce qu'on est, eh bien, on pourrait très bien imaginer que demain, on mette dans la loi que le diagnostic approfondi criminalo-personnel, encore si on garde la notion de clinique, on aura bien de la chance, mais le diagnostic approfondi à visée criminologique va utiliser les outils, on nous demande d'utiliser les outils, tout le temps. Le président l'a dit, vous devriez aller voir ce qui se fait au Canada, comme si on n'avait jamais travaillé avec les Canadiens. Hein, mon ancien adjoint, qui est maintenant le professeur de gravier à Lausanne, avait passé des années à Pinel, et pendant qu'il était dans le service, on avait des échanges constants. On sait un peu ce que nous disent nos copains de Pinel. Ils nous disent, prenez pas exemple sur nous, parce qu'on soigne que les gens qu'on peut soigner. On est dans une logique de donner à nos bailleurs, qui ne sont pas comme vous, la sécurité sociale, des résultats. Et si nous avons des récidivistes, eh ben, nos programmes de recherche vont être taillés d'autant. Donc nous allons définir quel est le criminel soignable, c'est celui qu'on sait soigner. Et les autres, eh bien, ils sont incurables et ils sont rejetés dans le système de la peine exclusive et non plus du soin. Vous voyez qu'en raisonnant comme ça, on change un peu la façon de voir le soin. Si on avait agi ainsi avec la cancérologie, ben on n'entrait pas là où on en est à guérir la majorité immense des cancers et à prolonger dans de bonnes conditions la capacité de vie. On n'aurait fait que des soins palliatifs. Est-ce que nous devons faire du soin palliatif pour les ours blancs criminels en les parquant dans une réserve et se concentrer le moyen des soins sur ceux qui sont gentils et qui ont des chances de ne pas récidiver, comme l'ont dit les évaluations initiales? Ou est-ce qu'on doit accepter de disperser nos moyens sur tout le monde? Vous voyez que, je vais m'arrêter d'ailleurs presque immédiatement, j'ai presque fini, hein. Mais on n'est pas loin du problème concret auquel sont soumis les psychiatres en prison et les psychiatres dehors. L'injonction de soins du suivi socio-judiciaire, qui est prononcée de façon très extensive maintenant, avec la loi de mars 2010, elle devient rechercher les troubles de personnalité. Sous-entendu, on commence déjà à poser cette question idéologique du trouble de personnalité. Et deuxièmement, poser la question de la castration chimique. Alors, ils ont quand même... On a pu obtenir qu'ils n'écrivent pas castration chimique. Mais à la télé et dans le public, c'est castration chimique. Autrement dit, punissez-les par où ils ont puni.
Péché.
Péché, oui, pardon. Ils ont puni aussi.
Ça fait double peine.
C'est vrai, oui. Punissez-les par où ils ont péché. Ah. Est-ce qu'on imaginerait, effectivement, qu'on fasse des lois saoudiennes pour couper la main
vous
des
vous
voleurs?
Vous permettez juste sur ce
oui.
point.
J'ai fini.
Parce que vous avez parlé du Canada, et j'ai eu à assister à une soutenance d'un mémoire sur le traitement sexuel au Canada. On m'a parlé d'un anneau de mercure.
Alors,
ça vous dit quelque chose?
Un anneau de mercure, de plétismographie. Oui,
vous êtes un anneau. On m'a dit, un étudiant, doctorat, faisant son mémoire sur le traitement sexuel, qui a passé 15 jours ou 3 semaines au Canada, on dispose, ou vous allez me le dire, un anneau de mercure qui oui. permet de lutter contre les pulsions sexuelles. Alors, est-ce que c'est la forme, est-ce que c'est la matière?
C'est un raccourci.
Je vous assure que c'est vrai. Hein,
Oui, mais j'en suis sûr. C'est pour transmettre un contact électrique. C'est un plétismographe, c'est-à-dire qu'on fait voir un délinquant sexuel, par exemple...
Une sorte de pulsion, puis on...
Des images susceptibles d'éveiller. Des images susceptibles d'éveiller ses fantasmes. Et s'il a le malheur de commencer à avoir une érection, l'anneau de mercure le détecte instantanément et tac, on lui met sous le nez un tampon d'ammoniaque. Pour que il
c'est
associe...
pas une sorte de.
C'est
de...
un réflexe conditionné.
Oui, mais c'est pas une sorte de... Comment vous appelez ça?
Non, on touche pas. Non, c'est pas de lui couper les.
Non, on lui coupe rien du tout. On lui coupe l'envie, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais tu veux dire, c'est pas un traitement un peu comme la.
Oui, mais c'est un peu orange mécanique.
Comme la castration, hein, castration psychologique.
Alors.
C'est Pavlov à l'envers.
Oui.
Bah, c'est une. Oui, mais à l'envers. Ouais. Donc,
enfin. Bon. Enfin, J'ai été trop long déjà.
Ah non, pas du tout.
Bon, je reprendrai s'il y a des questions. On peut passer à des questions. Hein. Si je termine, si j'ai juste 30 secondes, c'est dans ce qu'on nous demande, il y a non seulement le soin, mais il y a l'illusion que de tout savoir et tout contrôler permet le risque zéro. Le risque zéro, vous savez que c'est le corollaire aussi, c'est ce qui justifie la culture du résultat et la logique managériale. Donc, Nous disons il y a des causalités multiples et non pas des causalités simples, il n'y a pas de risque zéro. Et en plus, nous avons, je sais pas si dans le petit texte que j'avais transmis, nous avons une position en tant que soignant qui est l'antithèse de la position répressive, puisque nous ne pouvons travailler que dans la confiance et la vulnérabilité. Et si nous postulons que nous devons être dans la méfiance et l'invulnérabilité, nous n'entrons non seulement pas dans le soin, mais nous n'entrons même pas en relation. Donc nous avons de fait une position qui est antithétique de la prison. Hein. Alors, l'idée qu'on sache à tout moment où est la personne, avec le bracelet électronique. Alors, il y a des gags, hein, je vous en racontais un, il y a un de mes patients pédophiles qui a un bracelet électronique ancienne manière, donc avec pas le GPS, mais il est chez lui, donc à 3h du matin, et on lui téléphone, en lui disant, mais où êtes-vous? Vous sonnez. Il dit, mais où voulez-vous que je sois? Je suis dans mon lit. C'est vrai ça? Il dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train d'employer comme ligne? Vous êtes en train de m'appeler sur ma ligne fixe. Donc vous savez bien que je suis chez moi. Ah bon, d'accord, oui. 4h30, 1h30 plus tard, où êtes-vous? Ça sonne encore. Alors je lui dis, vous auriez dû répondre, je suis parti pour faire les bacs à sable, c'est la meilleure heure pour trouver les enfants. Hein? Je crois qu'il ne faut pas trop plaisanter, c'est comme de dire bombe dans un aéroport, on se retrouve immédiatement, on se retrouve immédiatement ligoté. Mais vous voyez cette idée... Il était où? Il était dans son lit.
Ah bon. Hein?
Mais l'idée qu'en contrôlant tout, en empêchant le pédophile d'aller faire ses courses en dehors avant 17h ou je ne sais pas quoi, enfin bref, on va pouvoir contrôler son comportement est une idée folle. Et c'est une espèce de rêve d'orange mécanique, effectivement, qu'on nous demande dont on nous demande d'être complice. On demande d'être complice. Par exemple, quand on a dans les injonctions de soins, on nous harcèle pour fournir des quantités de certificats qui ne servent strictement à rien, pour dire que la personne est toujours suivie en soins, en machin, etc. De façon à ce qu'on soit entré dans une logique, toujours la logique managériale, non pas d'une responsabilité, mais la logique d'une irréprochabilité face à l'évaluation. C'est ça le grand malheur de la situation. Ça incite à faire ce que j'appelle le multidisciplinaire territorial, c'est-à-dire un multidisciplinaire borné par une frontière au-delà de laquelle je ne suis plus responsable. Or, c'est exactement l'inverse de la responsabilité. Je l'avais dit l'année dernière, mais je le reprends. Une responsabilité qui est limitée n'est pas une responsabilité. La responsabilité ne peut être qu'illimitée, on est en position responsable. Et ça n'est que comme ça qu'on peut être psychiatre prenant en charge des gens susceptibles d'être dangereux, et non pas des gens dangereux dans l'absolu. Ça n'est que comme ça qu'on peut être homme politique disant, dans la raison, je ne vois pas pourquoi aller torpiller la prise en charge de 95% des gens au motif que j'essaye désespérément de me protéger de 5% contre lesquels je ne peux pas me protéger.